Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 17h, non, il est 16h59. Ah oui, on commence de plus en plus tôt sur notre émission. Et vous écoutez Au fil des pages. Merci de nous rejoindre donc sur les ondes de Radio Libertaire. Et nous commençons avec un peu de musique classique pour nous détendre dans ce froid, dans cette situation. Et alors on va s'évader avec Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, après un rêve, interprété par Renaud Capuçon, notamment Frédéric. Eh bien voilà, une musique très calme, très douce, il fait froid, donc on est rentré chez nous, et donc au fil des pages, eh bien c'est une émission qui est proposée par des passionnés du livre, de la lecture, de l'actualité, de l'histoire. Bon, aujourd'hui, Frédéric, Francis sont présents dans les studios. Marie, elle, est dans une conférence consacrée à Dominique Khalifa et nous en reparlerons à la prochaine émission. Et Dominique revient pour un hommage consacré à Dominique Bobin et une pièce de théâtre. Et donc de 17h à 18h30, ben les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois, vous nous retrouvez sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et en plus, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le net en vous connectant sur le site de Radio Libertaire. Alors Frédéric, est-ce que nous avons des annonces à faire ?
Tout à fait, nous avons des annonces, en effet. Alors pour commencer, nous avons l'émission Chronique syndicale qui aura lieu le samedi 17 qui vient. À partir de 11h30, les chroniques syndicales, qui sont entre autres animées par Hugues du groupe Commune de Paris, Voyage au pays des boxeurs, Loïc Vacan, édition de Découverte, une plongée dans le ghetto noir des Chicago, le ghetto noir, le Chicago des années 90. Voilà pour cette émission. Et puis l'Université populaire et libertaire vous propose aussi. Vous propose le ciné de la commune qui aura lieu le mercredi 21 décembre 2022 à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris, métro Oberkampf, Foufi du Calvaire, et qui vous proposera un documentaire, Les médicamenteurs. Alors c'est une enquête claire, pédagogique, conduite par Brigitte Rossigneux, qui dévoile les secrets de l'industrie pharmaceutique en suivant de façon ludique les pérégrinations des médicaments depuis leur conception jusqu'à leur exploitation commerciale. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pourrez consulter ceci sur notre blog Commune de Paris, Fédération Anarchiste, overblog.com. Voilà, c'est à toi Francis.
Merci Frédéric. Alors, une émission un peu spéciale aujourd'hui, en effet. Voici un an, nous nous lancions dans cette aventure, avec Frédéric notamment, de vous faire partager nos lectures. Et la première émission a été diffusée le 8 décembre. Nous recevions des amis, dont Michel, du groupe Commune de Paris, Blanche et Raphaël. Raphaël qui anime l'émission et pourtant elle existe, cette littérature. Alors, aujourd'hui, programme. Eh bien, pour alimenter le débat, la revue Bras Zéro, numéro 2, une excellente revue. La revue Retro News. Et puis, un livre de Stéphane Lemorel, Les Ménorelles, George Orwell et la vie ordinaire. Ensuite, nous aurons Jean Anglade, par Frédéric va nous présenter un livre de Jean Anglade, Les Ventres Jaunes. Puis, dialogue, rencontre avec Laurence Ducosso-Lacaze et Sophie Mucanez sur le livre Séverine l'insurgé, qui a été publié chez L'Échappé. Et puis, ils vont nous présenter aussi leur association, Les Amis de Séverine, qui a été créée en 2021. Ensuite, bien au titre des romans de la vie, un roman assez difficile mais important, à mon avis, de Soazig Aaron, Le nom de Clara, aux éditions Maurice Nadeau. Et Dominique nous parlera de Christian Bobin, je ne vois pas pourquoi je dis Frédéric, de Christian Bobin, poète et écrivain, récemment décédé le 23 novembre 2022. Et puis, elle embrayera avec une pièce à voir, Les filles aux mains jaunes, entre les ventres jaunes et les mains jaunes, théâtre Rive Gauche à Paris. Et si nous avons un petit moment, je vous inviterai à lire le dossier du Monde Libertaire consacré à l'autogestion et le groupe Commune de Paris y a largement été associé. Alors, le livre, pour ouvrir le débat, la revue Bras Zéro. Bras Zéro, c'est une revue qui est éditée par L'Échappé, et les éditions de L'Échappé, on a l'habitude d'en parler, mais là, c'est vraiment une revue de contre-histoire, et je dois vous le dire, et ce n'est pas fréquent, j'ai été épaté par cette revue. Le numéro 1, couverture rouge, est épuisé. Et je le comprends. C'est une revue annuelle, dense, près de 200 pages, d'une très belle qualité graphique. La présentation claire, bien mise en page, les références des ouvrages mises en valeur, un très beau travail. Mais, entre nous, L'Échappée nous y a habitués. Et sur le fond, eh bien, dans ce numéro 2, vous goûterez la diversité des thèmes abordés. Madeleine Pelletier, dont on retrouve les textes si actuels sur le féminisme, la dignité de la femme, son action dans la société, la franc-maçonnerie et les milieux anarchistes. Bref, une femme qui a compté au début du siècle dernier. Mais aussi l'article d'Anne Steiner sur l'enfance insoumise, les enfants fugueurs, dans la passion, d'aventure, quantité d'enfants, avant le premier conflit mondial, prennent la route pour rejoindre les ports, les grandes villes. Et il est intéressant de faire le lien avec des gens comme Arthur Rimbaud et ses poches crevées, son idéal, et aussi la terrible expérience de Jacques Thibault, de la célèbre saga des Thibault, où le père place en colonie pénitentiaire son fils. Je vous invite à relire ce passage, ou à relire tout simplement les Thibault. C'est un très beau, très belle saga. Et puis, d'autres textes abordent des questions plus polémiques. Par exemple, le moment antitotalitaire de la gauche française. Et puis, je vous invite à découvrir un article assez amusant d'ailleurs, consacré au trotskisme, avec une citation que j'aime beaucoup. « L'histoire n'oubliera jamais qu'avant de se révolter lui-même, Trotsky a étouffé dans le sang le mouvement révolutionnaire de Kronstadt et a écrasé le mouvement libertaire d'Ukraine. » Très juste. Plus léger, on va retrouver un article sur le style Apache des années 1900. La def de côté, des vêtements qui distinguaient ces mauvais garçons de l'ouvrier et du bourgeois. Pour rester à Paris, on va retrouver un article sur la chasse aux rats. On parle beaucoup des rats à Paris en ce moment. Eh bien, déjà, au début du siècle dernier, on avait une chasse aux rats avec les 25 centimes, 5 sous, en guise de récompense pour un cadavre de rat. J'aime bien aussi un article sur le Paris perdu. Alors je cite le chapeau de l'article. « Si les transformations de Paris étouffent nos souvenirs, si la ville populaire n'est plus, quelques écrivains que l'on serait tenté de considérer comme une famille littéraire nous racontent ce que furent jadis la Mouffe, la rue Mouffetard, la Maube, Maubert, Les Halles, la rue de Lappe, Saint-Germain-des-Prés, le Topol, le Sébastopol, les Troquets qui les jalonnaient. Un tour d'horizon de cet univers où les habitants, eux aussi, en pinçaient pour des formules bien balancées. » Alors vous retrouverez, très bel article, vous retrouverez Fallais, Yonnais, Ardelais, Fargue, Dabi, dans la ligne, tout à fait dans le lignage de François Villon. Et alors, en 2023, ça c'est une très bonne nouvelle, L'Échappée lance une nouvelle collection, Paris perdu. Alors, il y a deux titres, il y en a d'autres, mais il y a deux titres que j'ai distingués, La rue du Havre de Paul Guimard et Le vin blanc de la Villette de Jules Romain. Un régal en perspective. Et puis, un très beau texte sur la passion de Charles Péguy pour la typographie, vous savez, une approche, vous connaissez les cahiers de la quinzaine, et bien là, c'est une approche très technique des cahiers de la quinzaine. Oui, c'est un très bel ouvrage, il faut vraiment aller l'acquérir chez Publico pour en goûter la diversité, la richesse, en attendant le numéro 3 l'année prochaine. Et je suis, comme d'habitude, passé avant notre émission à Publico, et il y a un tas de Brasero, numéro 2, revue de contre-histoire. Donc ça, c'est très bien. Et puis, pour nous mettre en bouche avec le Paris populaire, j'ai sélectionné une chanson de Georges Ulmer, Pigalle.
Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rupin, Pigalle. Là c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé discrètement éclairé où l'on fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, on refrain qui s'enfuit, une boîte de nuit, Pigalle. L'on y croise des visages romains sensationnels. L'on y parle des langages
comme à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Cœurs et mannequins, gitanos, cieux malins, qui lisent dans les mains, pigales, cloches à camelot, tenants yeux de bistrot, trafiquants de coco, pigales. Petite femme qui vous sourit en vous disant, viens chérie. Et Prosper qui dans son coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, pigale. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais son monde y a qu'un seul.
Alors, seconde revue dans cette émission Rétro News, d'ailleurs une revue en lien avec Séverine. C'est la revue Rétro News numéro 4. Alors, la lecture de la presse révèle plus nettement que les livres la complexité de la société, la réaction plus ou moins hâtive des pouvoirs publics face aux exigences sociales, des articles plus courts, des illustrations parfois aguichantes et un rythme de parution plus soutenu. Que les livres, évidemment. S'appuyant sur 3 siècles d'archives de presse, la revue Rétro News de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, constitue une référence pour souligner l'intérêt de cette presse institutionnelle, mais aussi populaire, militante, pour nous, passionnés de cette histoire, justement. Et le numéro 4 présente une série d'articles consacrés au phénomène du temps, et par exemple les crises écologiques. Alors on souligne le processus linéaire et aveuglant du projet et du progrès technique. On relève aussi l'exploitation des ressources naturelles dénoncées dans la pratique du tourisme, notamment dans les Pyrénées, l'hypocrite aménagement des parcs nationaux pour préserver cette nature, cela dit, avec de fort belles illustrations. Et je voudrais insister sur les grandes plumes de ce numéro, tout d'abord Séverine, pour son célèbre article consacré à l'avortement. Un style, une vigueur, un courage chez cette femme militante des droits des femmes, et Albert Londres aussi, pour son reportage consacré à l'exploitation de la forêt équatoriale et à la population locale. Il rejoint le rapport Braza qui a été republié en 2018 aux éditions Le Passage Clandestin, et puis un livre dont nous reparlerons, Voyage au Congo, d'André Gide. Tout un dossier est consacré aux femmes journalistes, avec un texte de Colette consacré au procès Landru, qui est tout à fait fascinant. Vous vivez le procès. Un texte aussi que j'aime beaucoup, c'est le cas de Gerda Taro, tuée au front pendant la guerre d'Espagne près de Brunet, qui était une photographe, reporter de guerre. Enfin, je soulignerai un article étonnant. Le sujet, le concours de photos amateurs d'une revue qui s'appelait Le Miroir en 1915. Et le journal propose une prime de 30 000 francs à l'auteur de la plus saisissante photographie de guerre. Et vous y voyez des photos insupportables, de la tête du soldat allemand sortant de tête, au corps accroché dans un arbre, passant par l'instantané saisissant l'explosion d'un obus. Ah, vous ne serez pas indifférent. En tout cas, la richesse des thèmes abordés, la qualité de l'iconographie, celle des textes présentés, font vraiment de cette revue une référence qui montre aussi que cette presse savait aborder des sujets sensibles sans être toujours aux ordres des gouvernants. Donc la revue Rétro News numéro 4, qui est celle donc du dernier trimestre 2022. Donc là, intéressant. Et puis nous avons un troisième texte, parce que je trouve que c'est intéressant de clôturer une séquence débat par un texte assez visionnaire, En tout cas, ce sont des extraits d'ouvrages assez visionnaires, c'est-à-dire ceux écrits par George Orwell. Alors, Orwell, on en a souvent parlé dans cette émission, parce qu'on aime bien cet auteur. Mais là, les éditions Le Passager clandestin, qui sont organisées sous forme de scope, c'est intéressant aussi à relever, publie des livres de critique sociale, je cite, « pour, à son échelle, armer les esprits et nourrir les imaginaires de celles et de ceux qui souhaitent comprendre le monde actuel et le bouleverser ». Alors, une de leurs collections, dirigée par Serge Latouche, s'intitule « Précurseur de la décroissance ». Tout un projet. Elle est riche d'une trentaine de titres, dont Pierre Kropotkin et l'économie par l'entraide, William Morris ou La vie belle et créatrice. J'invite d'ailleurs nos amis qui sont dans le nord de la France ou qui peuvent s'y rendre, d'aller voir l'exposition William Morris qui se trouve à la piscine à Roubaix. C'est tout à fait intéressant parce que on connaît peu le personnage qui était un artiste. Bon. Et plus récemment, donc nous avons reçu à Publico un ouvrage intitulé George Orwell et la vie ordinaire, écrit par Stéphane Leménorel. Bon, on aime bien. Et il s'agit d'une petite biographie intéressante pour ceux qui ne connaissent pas le personnage d'Orwell, suivie d'une série d'articles, d'extraits des ouvrages d'Orwell avec une approche clairement énoncée, la dénonciation de la civilisation de la machine qui conduit à une uniformisation croissante du globe. Fin de citation. Cette civilisation aliène l'humain en le transformant en une annexe de la machine. Alors, en couverture de ce petit ouvrage, eh bien, vous avez un homme, un ouvrier qui est rivé au sens propre du terme à sa machine. Il y a un côté Les temps modernes de Charlie Chaplin que vous avez certainement vu quand il est dans les rouages. Bon. Et la pensée d'Orwell se construit, selon l'auteur, sur un triple horizon, dans une triple perspective. C'est-à-dire, tout d'abord, le souci de la langue et de la vérité. L'analyse de la domination et de la machine industrielle. La thématique de la liberté et de la vie ordinaire, d'où le titre « La vie ordinaire », source de résistance et de reconquête. Il y a une passion de la langue. Penser clairement est un premier pas, indispensable vers la régénération politique. Orwell, en 1946. Alors, tout le monde connaît la novlangue de 1984. Je vous cache pas d'ailleurs qu'on est en plein dans l'actualité. Une langue déstructurée, c'est une réalité déstructurée, mais aussi un individu privé de repères et de sa capacité à les construire, privé de lui-même, qui ne s'en raccrochera que plus facilement au hochet de la consommation qui tourne sans fin au-dessus du berceau où on le maintient. La phrase est terrible. Bon. Plus loin, il y a clairement une dénonciation de l'appauvrissement de la langue. Orwell, il existe entre ces deux catégories, c'est un extrait, hein, un énorme stock de métaphores éculées qui ont perdu tout pouvoir évocateur et qui sont utilisées pour la seule raison qu'elles évitent aux gens la peine d'inventer eux-mêmes des phrases. Un grand nombre de ces expressions sont utilisées sans qu'on en connaisse la signification et il est fréquent de voir combiner des métaphores incompatibles entre elles, ce qui indique avec certitude que l'auteur ne prête aucune attention à ce qu'il dit. Et de ce point de vue-là, je pourrais faire le lien avec ce qui se dit dans le monde politique, où là, on est dans le plus navrant. Et pour autant, pour Orwell, on peut parler simplement, ce qui ne veut pas dire bêtement. Un extrait là de 1984. Un dénommé Sim, enfin pour ceux qui ont lu le livre, vous voyez de qui il s'agit, dit à Winston, « Ne vois-tu pas que tout l'objet de la novlangue est de restreindre le champ de la pensée ? À la fin, nous aurons rendu le crime de pensée littéralement impossible, faute de mots pour l'exprimer. Tout concept dont on peut avoir besoin sera exprimé par un seul et unique mot dont le sens sera rigoureusement défini. Les autres mots seront effacés, oubliés. » C'est assez intéressant parce que j'ai comme le sentiment que nous sommes dans un appauvrissement de la langue. Et puis, en ce qui concerne la machine industrielle, Orwell considère qu'elle produit une domination et une emprise sur les esprits. Alors, une fatigue dans le travail, dans la pensée, impossible de critiquer. Pour ceux qui, comme moi, ont connu des gens, je pense à mon père qui travaillait à la chaîne, mais quand vous revenez d'une journée passée à la chaîne, vous n'avez pas envie d'aller regarder ou d'aller lire des ouvrages compliqués, parce qu'on est épuisé. Et il écrit très bien le processus dans son livre « Le quai de Vigan ». Troisième aspect... Le troisième aspect, vous savez, c'est cette thématique de la liberté et de la vie ordinaire. Eh bien, je voudrais citer l'essai, tout simplement, les lieux de loisirs. Vous lirez ce passage, on est en plein Center Park, ou paquebot de croisière. Je vous en donne pas lecture, vous verrez. Et on retrouve déjà ces éléments dans un autre livre qu'on avait commenté au mois de janvier de cette année, Chronique du temps de la guerre sur la BBC, aux éditions Les Belles Lettres. Et puis, toujours cette quête du bonheur qui est un vrai souci pour Orwell. Quand il écrit, quel qu'en soit... Le printemps est arrivé, même dans les quartiers nord de Londres, et personne ne peut vous empêcher d'y prendre plaisir. Cette proposition et cette réflexion est profondément satisfaisante. Les bombes atomiques s'accumulent dans les usines, la police rôde, les mensonges sont déversés par les haut-parleurs, mais la Terre continue de tourner autour du Soleil, et ni les dictateurs, ni les bureaucrates, quelle que soit leur désapprobation, ne peuvent rien contre cela. Merci George Orwell de nous donner de l'espoir dans un monde plus que difficile que nous vivons aujourd'hui. Donc je rappelle le livre, Stéphane Lemesnorel, George Orwell et la vie ordinaire, aux éditions Le Passager clandestin en 2022. Frédéric, tu nous avais proposé un livre sur les ventres jaunes. Les ventres jaunes, c'est un moment de lutte. Ça va être un livre de lutte. Je propose que maintenant, nous passions le chant, le drapeau rouge, qui est le grand chant, qui a été un des grands chants du monde ouvrier de lutte, justement. Frédéric est en train de chercher la bonne piste. Je pense que si nous avons une sonate de Chopin, ça ne va pas aller. Non, ça ne va pas aller. Bon, alors, donc, le drapeau rouge ne passe plus. Voilà, c'est un signe déjà, un signe des temps. Mais Frédéric, alors, ce livre, qu'en est-il ?
Alors, bonsoir, enfin, rebonsoir, chères auditrices et auditeurs d'Au fil des pages. Alors, pour cette émission, j'ai choisi de vous parler d'un livre de Jean Anglade, que certains et certaines appellent le Pagnol de l'Auvergne. Ce livre a pour titre « Les ventres jaunes », que j'ai découvert grâce à un tweet, comme quoi il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Alors, qui sont les ventres jaunes ? Des émouleurs, oui, des émouleurs, vous avez bien entendu, non pas des rémouleurs. Les émouleurs font le fil de la lame pour la fabrication. Le rémouleur réaffûte la lame auprès de ses clients. Donc, des émouleurs de tiers, non pas de Thiers, l'abominable, le massacreur de la commune de Paris, 1871, mais la ville de Thiers, oui, en Auvergne, une capitale de la coutellerie. Cet ouvrage qui décrit la vie des émouleurs sur quelques décennies, de 1883 à 1911, à cheval sur le début de la Troisième République et le début du XXe siècle, des références historiques et sociales parsèment cette chronique, où l'on suit le destin de plusieurs personnages. Quelques références à la pensée libertaire, car les émouleurs se revendiquent comme tels et ne veulent dépendre de nul patron. Ce livre est à mi-chemin entre la littérature prolétarienne et le roman chronique. Il offre un bon reflet de l'époque où des changements sociaux naissent et s'imposent à juste titre. Les nouvelles technologies apparaissent aussi dans les régions, l'électricité par exemple, et le danger de l'automatisation des métiers dans l'industrie, qui de fait permettrait au patronat de se passer d'une partie de son personnel. Pas de lourdeur, des paragraphes courts, des chapitres fluides, bien articulés avec un sens de la chronologie historique. J'ai trouvé les personnages de ce livre attachants. Vous aurez aussi quelques surprises car le destin de certains, de certaines, de ces protagonistes sont bousculés en bien ou en mal. Un livre qui peut se lire de 7 à 77 ans ou même bien au-delà, tant il est écrit dans un style confortable. Quelques phrases de langue auvergnate, traduites en français, parsèment le roman. À vrai dire, je ne connaissais pas Jean Anglade, mais j'ai bien envie de lire de ses autres ouvrages, dont la saga des Pitolets, dont les ventres jaunes ne sont qu'un tome. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre, bien sûr, bien que ne figurant pas au catalogue de Publico, n'hésitez pas à le commander à Publico en précisant qu'il n'est pas au catalogue, ainsi vous pourrez soutenir et vous soutiendrez Publico. À une prochaine fois pour un autre livre, alors je rappelle les références, Les Ventres Jaunes, Jean Anglade, édition Pocket, 275 pages, pas cher, 7,10 €. À toi Francis.
Merci, merci Frédéric. Alors, on n'a toujours pas retrouvé le drapeau rouge, hein, c'est terminé. Hein. Bon, voilà, très bien. Bon, je plaisante, bien évidemment. Alors, bah, écoutez, en attendant nos amis qui vont nous parler de Séverine, qui nous rejoignent dans 9 minutes exactement, eh bien, je voudrais parler d'un livre que je n'ai pas annoncé. C'est une surprise, mais il y a toujours des surprises dans notre émission. Comment ? Ben, c'est tout simplement Hugo Schmidt, combattant anti-nazi. Ce monsieur était allemand et résistant. Alors, première question, c'est de se dire, mais comment peut-on être allemand et résistant ? Ben, vous savez, on avait tellement l'image que tous les Allemands étaient des nazis que ce n'était pas possible. Bon. Or, j'insiste, tout simplement, comment peut-on être allemand et résistant ? Eh bien, comme Hugo Schmidt, c'est-à-dire être un combattant anti-nazi, mort, avec ses camarades républicains et anarchistes espagnols, dans les combats du plateau des Glières, vous savez, en Haute-Savoie, assassiné, comme tant d'autres, par les gendarmes de Vichy. Alors, en fait, des milliers d'Allemands rejoignirent les rangs des mouvements de résistance dans les pays occupés par l'Allemagne nazie. En France, leur nombre a pu être estimé à environ 1000 personnes. Ils devaient infiltrer l'appareil militaire allemand pour enseigner la résistance française. Et puis, d'autres ont rejoint des groupes. Par exemple, il y a un groupe qui a intégré le maquis Bir-Hakeim dans les Cévennes. Et l'ouvrage de Bernard Favre nous relate la vie et le combat d'Hugo Schmidt, un communiste recherché par la Gestapo, qui était lui-même un militant en Allemagne, qui a donc été obligé de s'enfuir. Et il est engagé en Espagne, où il combattit au sein de la 12e brigade internationale. Alors, l'aventure de Schmidt commence au lendemain de la Première Guerre mondiale. La Ruhr est occupée, la vie est difficile en Allemagne, on le sait tous, l'inflation, la crise exploitée par l'extrême droite, et être militant communiste, c'est risquer sa peau au sens propre. Il est fiché, arrêté. Il s'enfuit en 1934. Il se réfugie en Belgique. Il connaît l'exil. Et je renvoie à cet effet aux pages de Stefan Zweig, une référence ou encore Histoire d'un Allemand de Sébastien Hafner, qui a été publié, lui, chez Babelio, Actes Sud. Il est recherché, Hugo Schmidt. La fuite permanente. Il combat en Espagne en 1936, donc dans ce bataillon, Thalmann. Et pour les Allemands, les Italiens, qui étaient sur le front républicain, en 1936, il s'agissait bien de restaurer la démocratie, mais aussi de se battre pour promouvoir une cause révolutionnaire dans leur propre pays. Et après la défaite de l'Espagne républicaine, la chasse aux opposants en exil se poursuit. La Gestapo veille dans les camps, en Belgique, puis en France, ceux de Gurs et de Saint-Cyprien. Elle se fait remettre les listes des Allemands emprisonnés par Vichy. Un certain nombre en réchapperont et rejoindront les GTE, les groupes de travail des étrangers. J'en reparlerai plus tard dans une autre émission consacrée aux républicains espagnols scandaleusement parqués à Rivesalt. Et alors, Hugo Schmidt est envoyé en Haute-Savoie. Ces GTE sont un vivier pour la résistance. En effet, c'est un moyen pour eux de, à la fois de travailler, de ne pas être déportés, de ne pas être fusillés, mais ils en profitent après pour être exfiltrés et rejoindre cette même résistance. Alors il rejoint un maquis espagnol, celui de la maquis espagnol CNT, sur le plateau des Glières. Et là, c'est le drame. Vous connaissez tous l'histoire. L'attaque des troupes françaises et allemandes contre les résistants. Il est arrêté, il est condamné à mort, et il est fusillé le 4 mai 1944 par des gendarmes français qui, évidemment, obéissent aux ordres. Ça a toujours été le drame d'avoir des gens, des Français, qui fusille, qui assassine des résistants et des résistants étrangers. Allemand et résistant, Hugo Schmidt, combat anti-nazi, l'auteur, donc Bernard Favre, aux éditions Ampelos, en 2019. Et Frédéric a retrouvé le drapeau rouge. Alors Frédéric, le drapeau rouge.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes fois, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, regardez, quand les fièvres quand ils bougent, c'est l'envie au combat préparé.
Et sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore livre. C'est long, pli taillé en haillons. L'art du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur.
Bien, nous allons passer au deuxième temps de l'émission, c'est-à-dire une rencontre avec deux jeunes femmes, Laurence Ducos-Lacaze et Sophie Muscanès, pour le livre « Séverine l'insurgée » publié chez L'Échappée, mais aussi pour la présentation de leur association « Les Amis de Séverine » qui a été créée en 2021. Alors je crois, Frédéric, que nous avons ces dames en ligne. Allô ?
Oui.
Alors, qui ai-je là d'abord ? Qui avons-nous ? Laurence, Sophie ?
Alors, Sophie et ouais. Laurence.
D'accord, parfait. Bon, alors, on va parler de Séverine. Hein. Alors, c'était bien, je ne sais pas si vous avez entendu, on a passé le drapeau rouge précédemment. Bon, je trouve que c'était une belle chanson pour introduire cette femme, une femme libre, une journaliste célébrissime en son temps. Et inconnue ou presque aujourd'hui. Alors, premièrement, comment deux enseignantes, en viennent à s'intéresser à ce personnage ?
Eh bien, écoutez, c'est l'histoire d'une rencontre, ou même de plusieurs rencontres. Moi, Laurence, je me suis promenée un jour à Pierrefonds, j'ai fait une visite guidée, et j'ai découvert la maison de Séverine à Pierrefonds, avec donc des plaques qui indiquent que cette maison a été habitée par une journaliste, féministe, donc j'ignorais tout d'elle, donc j'ai commencé à me renseigner sur elle.
Alors Laurence, est-ce qu'on peut préciser où se trouve Pierrefonds ?
Alors Pierrefonds se trouve dans l'Oise, d'accord. À une soixantaine de kilomètres de Paris.
Oui, c'est ça, d'accord. Merci.
Voilà. Alors. Et donc j'ai eu envie d'en savoir plus sur cette femme. Et là vraiment j'ai fait une découverte assez extraordinaire.
Qui a changé nos vies, je crois.
Voilà. Et donc Sophie l'a aussi rencontrée.
Alors moi je l'ai rencontrée grâce à Laurence dans le cadre de notre travail d'enseignante. Nous sommes toutes les deux enseignantes en lycée. Et à l'occasion de présentations de femmes autour du journaliste à destination de nos élèves, Laurence a fait une conférence au lycée pour présenter Séverine. Et elle a commencé à parler de cette femme que voilà dont moi je ne savais rien. Et en l'écoutant, d'abord j'ai été absolument subjuguée par cette personnalité effectivement extraordinaire qui était Séverine, par tous les combats qu'elle a menés. Et puis elle nous a montré la photo de la maison de Séverine à Pierrefonds, donc pas très loin de là où nous enseignons, puisque nous enseignons à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, c'est à 15 kilomètres de Pierrefonds. Mmh. Et la première question, en fait, je suis allée voir Laurence à la fin de sa conférence et je lui ai dit, bon, on fait quoi juste pour aller sauver Séverine, quoi. Hein. C'était un petit peu ça. Et qu'est-ce que nous, société civile, nous, enseignantes, à part en parler à nos élèves, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, moi, par ailleurs, je travaillais avec le réseau des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France. Et je me suis dit, au fond, ça relève de leur mission. Et donc, je vais leur poser la question. Je vais leur demander qu'est-ce qu'on peut faire quand on est deux personnes lambda qui avons l'intention de sortir quelqu'un de sa tombe et de la refaire connaître, parce que vous l'avez dit au début, hein, célébrissime en son temps, inconnue ou presque aujourd'hui, en tout cas connue que de rares spécialistes. Ce qu'on nous a dit, c'est première chose, il faut créer une association des amis d'eux. Et ça, c'est le point de départ de notre aventure qui a commencé en juillet 2021 et qui depuis nous occupe bien.
Ah, j'ai l'impression, parce que quand on regarde votre site internet, bah, vous êtes quand même sacrément mobilisé. Hein, et cette femme, oui, qui était vraiment célébrissime, bah, je songe à une récente exposition là, au musée Carnavalet sur Parisienne citoyenne, où on voit le tableau d'Amélie Boris-Aurel qui la représente dans une robe blanche, un teint pâle, ce qui fait ressortir sa chevelure rousse. Elle est digne, elle est maîtresse d'elle-même, sûre de ses opinions. Oui, c'est une femme qui a pu imposer, qui s'est battue. Remarquez, elle a été à bonne école avec Jules Vallès, mais c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Alors, quand on lit le livre, parce que vous avez écrit la postface, mais quand on lit le livre sorti aux éditions de l'Échappée, on est étonné de la modernité des thèmes abordés. Alors, comment se fait-il que ces thèmes aient pu passer le temps ? Alors, je pense notamment au célèbre article sur l'avortement dont j'ai parlé, puisque Retro News l'a repris dans son dernier numéro.
Bah, écoutez, quand on lit certains articles de Séverine, on s'aperçoit que les sujets qu'elle a pu traiter, les combats qu'elle a pu mener, sont toujours d'actualité. Donc vous avez parlé là, effectivement, du combat pour les droits des femmes, avec notamment le texte pour le droit à l'avortement, mais il y a également un texte qui s'appelle « Tueur de femmes », qui fait vraiment référence donc aux violences conjugale en l'occurrence, mais elle a mené également des combats pour la défense des animaux et puis de très très souvent pour la défense en fait de toutes les personnes qui étaient en souffrance, des déshérités. Et si ces combats sont encore si ces textes sont encore d'actualité, c'est que ces combats le sont encore, mais c'est aussi que dans sa façon d'écrire, elle a une façon d'écrire qui s'adresse directement à la sensibilité du lecteur et de la lectrice, et c'est ce qui touche encore aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, c'est non seulement les thèmes, mais c'est aussi cette façon d'écrire, cette façon aussi de s'immerger dans certains sujets. Donc c'est à la fois les thèmes et la façon de les aborder, en fait.
Et alors, les thèmes, et puis c'est vrai qu'elle a, au départ, quand on voit quand, au fil des textes, au départ, elle a un style qui est assez valésien. Mm-hmm. Et petit à petit, elle adapte son style, parce que Jules Vallès pouvait écrire comme ça, bon, l'insurgé, bon, c'est Vallès, quoi. Mais après, on la sent évoluer, on la sent mûrir, on la sent posséder son style, et puis elle va aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas du journalisme en chambre, notamment il y a le célèbre reportage sur les casseurs, là, ces femmes...
Les
casseuses de sucre. Quelle vie épouvantable que la vie de ces femmes.
Bah, effectivement, l'article, donc, Séverine fait partie des reporteresses, hein, puisque c'est le terme employé à l'époque. Elle-même emploie ce terme pour parler d'elle. Et son originalité, c'est qu'elle se rend sur le terrain pour mener des enquêtes. Alors, elle commence dès qu'elle est au cri du peuple. Hein. Par exemple, elle se rend sur place quand il y a un incendie à l'Opéra Comique pour essayer de voir qui sont les responsables. Mmh. Quand il y a un coup de grisou dans la mine, dans les mines près de Saint-Étienne, elle va descendre dans les mines, hein, pour voir les dégâts. Elle va rencontrer les mineurs, elle va rencontrer les familles, elle va ouvrir un carnet pour recueillir des dons. Et puis, il y a ce fameux article, les casseuses de sucre, puisque c'est une industrie qui, à l'époque, est florissante, hein, puisqu'il s'agit, pour ces femmes, à partir des pains de sucre, de les casser, hein, d'où le nom, pour faire des petits sucres. Et donc, il y a des femmes qui se sont mises en grève dans ces industries, hein, puisqu'il y en a toute une série, et donc elle va se rendre sur place pour connaître les raisons de la grève et pour également voir les conditions de travail et ce qu'elle décrit de façon très précise dans son article, mais aussi les effets délétères sur la santé de ces femmes. Oui. Et l'article se termine où elle évoque en fait l'industriel Sommier, qui est le propriétaire de cette industrie et qui par ailleurs est également le propriétaire de Volvicomte, quoi, dont on connaît l'histoire avec le surintendant Fouquet.
Oui,
donc voilà, d'ailleurs ça ne lui échappe pas, et l'article se termine vraiment par cette chute qui est extrêmement forte après la description des conditions de travail des femmes. Et c'est vrai que donc elle pratique un journalisme d'immersion où la subjectivité a toute sa place aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle se met vraiment en scène. Il ne s'agit pas d'être neutre, hein, bien au contraire, il s'agit de s'engager complètement dans un sujet.
Oui, c'est un peu le style de Simone Veil, la philosophe, bien sûr, dans son livre La condition ouvrière, lorsque Simone Veil va à l'usine, sur l'atelier, va sur les chaînes, comment Séverine a cette formule, décrire la vie ouvrière ne suffit pas, il faut la vivre pour en bien apprécier toute l'injustice et toute l'horreur. Donc elle est impliquée, elle n'est pas neutre, comme vous dites, oui, c'est vrai.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous citez Simone Veil, bien sûr, mais c'est tout un courant du journalisme. Hein. Mmh. Marie-Ève Terranti, dans son livre « Femme de lettres, femme de presse », en parle très bien. C'est-à-dire que il y aura des journalistes femmes qui vont se situer dans la lignée de Séverine, hein, par exemple André Théry qui se fera interner à la Salpêtrière, mais on a aussi aux États-Unis un Nellie Bly qui fait un reportage où là aussi elle se fait enfermer dans un asile psychiatrique, elle se fait interner. Donc c'est intéressant de voir que là se développe notamment chez ces femmes journalistes vraiment une pratique du journalisme qui consiste à vivre, vraiment à vivre pour pouvoir témoigner, à revendiquer complètement la subjectivité et qui permet aussi l'identification. Et je dirais qu'un des aboutissements aujourd'hui de ce courant journalistique, c'est Florence Aubenas,
oui,
qui elle-même, dans le quai de Ouistreham, se fait embaucher pour faire le ménage sur l'hystérie, quoi. On voit vraiment que là, il y a une lignée, il y a une pratique du journalisme.
Mmh. Alors, Séverine, pourtant, rien dans ses origines ne pouvait la conduire à ce qu'elle vivra là. Et alors, vous pouvez nous rappeler ses origines et surtout la grande rencontre qui va changer sa vie.
Alors, effectivement, Séverine, c'est une jeune femme qui vient d'un milieu de petits fonctionnaires, hein, c'est un milieu de petite bourgeoisie, et elle est complètement élevée dans cet esprit. Elle le dit d'ailleurs quand elle rend hommage à Vallès et quand elle dit tout ce qu'elle peut lui devoir, hein. Elle dit à quel point il l'a justement sortie de ce qu'elle était à cette époque-là, et elle dit qu'elle était qu'une espèce de petite poupée finalement, et puis qu'il en a fait, il lui a donné un cœur de citoyenne. Et effectivement, la grande rencontre qui va changer sa vie, c'est sa rencontre avec Jules Vallès, qui est une rencontre qui se fait par hasard. D'une certaine manière, en fait, elle est en Belgique et elle se trouve, entre la fin de l'année 1879 et 1880, elle se trouve à Belgique avec Adrien Guébard. Adrien Guébard, c'est un jeune homme de bonne famille, d'origine suisse. Elle a travaillé en tant que lectrice chez la mère d'Adrien Guébard. Et puis, en fait, elle avait été mariée une première fois. Très jeune, elle avait à peine 17 ans et elle a extrêmement mal vécu ce premier mariage et en particulier sa première nuit de noces, hein, qu'elle a vécu comme un viol. Elle s'est retrouvée enceinte tout de suite après et donc elle a eu un premier fils de ce premier mariage. Le divorce n'existait plus en fait à cette époque-là. Elle s'est retrouvée seulement séparée de corps et de biens de son premier mari. Et puis donc elle se fait embaucher chez Madame Guébard comme lectrice. Et très rapidement, en fait, il y a une liaison qui se met en place avec Adrien Guébard et elle se retrouve enceinte.
Mmh.
Alors évidemment, elle est enceinte, elle n'est pas divorcée mais séparée de corps d'un premier mariage. La situation est pour le moins complexe et donc elle va en Belgique pour accoucher en Belgique. Et en Belgique, à cette époque, eh bien, elle va rencontrer, alors chez un ami commun, elle va rencontrer Vallès, qui lui, il poursuit sa vie de proscrit, puisque effectivement, il est en Belgique en attendant l'amnistie, hein, suite à la Commune, et puis il a été condamné à mort par Contumace. Et donc, il se rencontre une première fois. La première rencontre, c'est pas une rencontre où Cédrine est séduite par Vallès. Il y a une très grande différence d'âge. À ce moment-là, elle a 25 ans, lui, il a 48 ans. Et ils sont complètement de deux univers opposés, effectivement, puisque lui, c'est à la fois le proscrit, le condamné à mort, l'ancien communard. Et elle, c'est l'inverse. Hein, c'est la jeunesse, c'est la jeune femme bourgeoise, etc. Et en fait, ils vont se retrouver de nouveau par hasard à Bruxelles. Et cette fois-ci, Vallès embarque littéralement Séverine avec lui et l'invite à boire un coup dans une taverne, ils boivent de la limonade. Et là, ça va durer beaucoup plus longtemps et ils discutent tous les deux. Il y a Adrien Guébard et la mère d'Adrien Guébard qui attendent à l'hôtel pendant ce temps et qui se demandent vraiment ce que fait Séverine. Et dans cette première discussion, en fait, c'est d'abord ça dure plus longtemps et puis c'est beaucoup plus enflammé. Et Séverine découvre Vallès, elle découvre aussi un univers qu'elle ne connaît pas, et il lui parle justement des communards, il lui parle de son militantisme, il lui parle de tout un monde qu'elle découvre entièrement. Et puis ils vont se retrouver un petit peu plus tard, en l'occurrence, alors que la loi d'amnistie a été promulguée et que Vallès a pu rentrer en France, donc il rentre le 13 juillet 1880, et ils vont se retrouver au tout début de l'année 1881, lors d'une soirée, en fait, à laquelle Vallès invite personnellement Séverine. C'est une soirée qui est faite, Maxime Lisbonne, qui était aussi un ancien communard qui venait juste de rentrer de Nouvelle-Calédonie, vient donc de revenir sur le territoire français. Il est, comme beaucoup d'anciens communards, il est sans le sou. En plus, c'est quelqu'un qui est estropié suite à une grave blessure à la jambe. Et donc, il y a une soirée qui est faite chez Henri Rochefort, qui est le directeur du journal L'Intransigeant. Et il décide de faire une soirée théâtrale au profit de Lisbonne. Et donc, Vallès va inviter Séverine à venir à ce moment-là. Et alors, cette fois-ci, le Vallès qu'elle découvre, c'est pas le même que celui, évidemment, qu'elle avait vu en Belgique, parce que en Belgique, il était exilé, il était proscrit. Là, il est amnistié, il est sur son territoire et il est entouré des siens. Et donc, elle se rend compte de la personnalité de Vallès. Et à partir de là, il y a une vraie amitié qui se met en place entre les deux personnages, et ils vont se revoir. Et Vallès lui propose de travailler avec lui et de lui apprendre le métier de journaliste. La difficulté que rencontre Séverine, je fais un joli mot valise entre Séverine et Vallès. La difficulté que rencontre Séverine, c'est en fait l'opposition de ses parents, parce que évidemment de sa famille, parce que pour sa famille, Vallès, c'est justement l'ancien condamné à mort, et donc il refuse qu'elle devienne journaliste. Et en mars 1881, elle fait une tentative de suicide en se tirant une balle dans le cœur. Fort heureusement, il n'y a pas de dégâts très graves. Et elle écrit en même temps une lettre d'adieu à Vallès, qui est une lettre poignante, dans laquelle elle lui envoie un billet en lui disant « Je meurs de ce qui vous fait vivre ». C'est une lettre qui est très connue. Hein, Je meurs de ce qui vous fait vivre, de révolte et de haine. Je meurs de n'avoir été qu'une femme, alors que brûlait en moi une pensée virile et ardente. Je meurs d'avoir été une réfractaire. » Et devant cette tentative de suicide de leur fille, les parents de Séverine acceptent du coup que commence cette collaboration. Et effectivement, elle va vraiment faire ses débuts avec Vallès, et c'est lui qui lui apprend à la fois le reportage, parce que lui-même, il avait déjà, pour le coup, il a une longue histoire dans le journalisme, il avait déjà créé plusieurs journaux. Et donc, il va non seulement lui apprendre le reportage, mais il va aussi lui apprendre à écrire des articles, à composer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement dans le Séverine du début vraiment un héritage valaisien qui est manifeste dans son écriture. Et puis, à un moment donné, elle a sa propre plume, véritablement. Et c'est intéressant de voir aussi la progression, justement, en termes de style de Séverine. Et en fait, ce qui va être aussi très intéressant dans leur collaboration, c'est que grâce à Adrien Guébord, qui lui est quelqu'un de financièrement très à l'aise, et par ailleurs, c'était sans doute un homme extrêmement ouvert et sur lequel je pense qu'il y aurait vraiment des choses à chercher et à approfondir, parce qu'en fait, Adrien Guébord va aider financièrement Vallès pour relancer le Cri du Peuple. Et c'est grâce au soutien financier de Guébord que le Cri du Peuple peut être effectivement de nouveau republié.
Oui, tout à fait. C'est le grand journal de Vallès. Alors, en plus, elle va, non seulement elle apprend à écrire, etc. Bon, ça, c'est Vallès. Mais elle apprend aussi à se battre. Parce que être journaliste dans un journal de ce type qui essaye de rassembler les différentes sensibilités de la gauche, on sait ce que ça veut dire encore aujourd'hui. Mais ça va la conduire, malheureusement, à la mort de Vallès, quelques temps après, a démissionné. Et ça, c'est l'influence de Guède et de tout le sectarisme de Jules Guède, qui était très fort de ce point de vue.
En fait, dès qu'elle est au Cri du Peuple, elle est quand même mal perçue, déjà par ses origines, encore une fois. Elle est vue comme une petite... Alors, c'est une femme.
Ouais, c'est une petite bourge, quoi. Voilà.
C'est une petite bourge. Voilà. Ensuite, elle n'a aucune expérience et elle se trouve dans un milieu avec des gens qui sont aguerris, quand même, qui ont et l'expérience politique et l'expérience journalistique. Et puis, en plus, elle est effectivement au milieu de mouvances de gauche qui sont différentes. Vallès, il a toujours voulu, et ce depuis l'origine du Cri du Peuple, depuis le premier Cri du Peuple, il a toujours voulu un journal qui était un journal ouvert à tous les mouvements possibles du socialisme, tous les courants. Puis ce qu'il voulait, c'était un journal populaire écrit pour le peuple, lu par le peuple.
Et donc ça, c'est... Pour avoir autorité sur les différentes sensibilités, il fallait avoir une personnalité comme Vallès. Après ça, c'était beaucoup plus difficile, ce qui ne veut pas dire que Séverine n'avait pas de personnalité. Alors, elle démissionne, mais après, elle vire à droite ou quoi ?
Alors, elle démissionne pas tout de suite. Hein. Oui. D'abord, avant de démissionner, on a d'abord toute la bande de Guède, Massard, Duc-Quercy et compagnie, qui est en fait licenciée à un moment donné. Parce que justement, il y a vraiment divergence d'opinion entre Séverine et tous ces gens qu'elle considère comme des doctrinaires. Et il y a une scission qui va se faire à un moment donné avec une affaire qui est l'affaire de l'anarchiste Clément Duval, donc en 1887. Et en fait, le mouvement de Guède va... Alors, eux, ils prétendent effectivement qu'ils sont partis de leur propre volonté. En réalité, ils sont licenciés du Cri du Peuple. Et puis, malgré tout, en fait, ça ne règle pas tous les problèmes. De fait, elle continue à trouver beaucoup d'opposition à l'intérieur de son journal. Et elle finit par partir. Elle part en 88.
Alors, elle ne vire pas à droite, contrairement à ce que je disais faussement en termes de questions. Mais il y a une phrase célèbre que vous avez extraite d'un article, là, « Avec les pauvres toujours, malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, malgré leurs crimes ».
Oui, alors ça, c'est une phrase effectivement très célèbre de Séverine, que l'on retrouve un petit peu partout. Mais ce qui est intéressant, c'est sans doute de la contextualiser, quoi. Voilà. Pourquoi elle écrit ça, d'où ça sort.
Nous avons encore 8 minutes.
Hein. D'accord, alors très rapidement. En fait, effectivement, cette phrase, elle est écrite par Séverine dans Le Cri du Peuple, le 30 janvier 1887, justement à l'occasion de l'anarchiste Duval, qui a fait un cambriolage, qui a blessé un brigadier et qui est condamné à mort pour cela. Et Séverine va écrire parce que justement Gued lui considère que c'est normal, qu'il n'a pas à voler, etc. Séverine va avoir une position différente parce qu'elle, elle considère qu'il faut réfléchir, se demander pourquoi des gens en arrivent à voler. Et il ne s'agit pas d'excuser, mais il s'agit de comprendre. Mmh. Et là, Séverine donc va défendre les pauvres et va s'opposer à Gued et à toute sa mouvance qu'elle appelle les pharisiens de la sociale quand même. Hein. C'est-à-dire que l'opposition est forte. Et donc cette phrase, elle la remettra en question 5 ans plus tard, au moment de l'attentat anarchiste du restaurant Véry, puisque là, il y aura 2 morts. Et donc, elle exprimera dans un article les doutes qu'elle éprouve face à cette phrase qui pouvait être considérée comme sa ligne de conduite, mais à partir du moment où il y a des morts, eh bien, elle reconsidère sa position et elle écrit un très bel article polyphonique où elle montre toute la difficulté de se positionner dans cette situation. Elle dit elle-même « Où est ma route ? Quel est mon chemin ?» Mmh. Donc, on voit qu'elle est... Elle a une ligne de conduite, mais elle est aussi capable de la réviser, en fait.
Oui, tout à fait.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle a cette capacité. Alors, il y a 2 choses qui apparaissent très nettement dans ses articles, et ça revient systématiquement. C'est que, elle fait la généalogie des faits. Elle remonte aux origines. Elle ne prend jamais position sans essayer d'abord de comprendre. Et ça, c'est jamais quelqu'un qui hurle avec les loups, quand même. Au contraire. C'est-à-dire que dès qu'elle se rend compte qu'à un moment donné, il y a un mouvement qui va dans le sens de chercher à descendre quelqu'un, elle veut comprendre. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, effectivement, elle est capable de remettre en question ses propres positions. Et de se dire, finalement, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Et cette place qu'elle laisse au doute, qui est vraiment à l'intérieur de ses articles, c'est quand même tout à fait remarquable, parce que elle est vraiment dans la recherche de, j'allais dire d'une forme de vérité, si tant est que ça existe, mais en tout cas d'une authenticité, toujours par rapport à ses prises de position. Et si ligne de conduite il y a, sa ligne de conduite, c'est d'être toujours du côté des plus faibles, du côté des opprimés. Vous avez cité la phrase avec les pauvres toujours. Moi, je trouve que, voilà, il y a une autre phrase qui est dans l'article Histoire de chien. Donc, elle nous parle des animaux, engagement pour les animaux. Et elle nous dit, donc elle parle des chiens. Après les pauvres, les enfants, les vieillards, les femmes, tous les êtres faibles, enfin, ils, les animaux, me paraissent ce qu'il y a de meilleur, de plus intéressant ici-bas. Et vous voyez, dans l'énumération, les pauvres, les enfants, les vieillards, les femmes, tous les êtres faibles, enfin, et puis les animaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de se placer toujours du côté de ceux qui sont et des victimes et des opprimés qui sont sous la pression.
Elle fait écho à de nombreuses prises de position de Louise Michel. Louise Michel aussi était très attachée aux animaux. Et d'ailleurs, elle fera de Louise Michel l'oraison funèbre.
Tout à fait.
C'est un très beau texte, très émouvant.
Oui. Elle prononcera effectivement l'éloge funèbre en 1905. Mmh. Et ce sont deux femmes qui pas avec des parcours très différents mais qui se retrouvent sur de nombreux points aussi,
oui.
Bien sûr.
Oui, oui. Mmh. Et comme, puisque le temps passe, là, il est 6, elle n'oppose pas le féminisme et l'affranchissement du monde. Au contraire, elle montre bien que le féminisme rentre dans le cadre de l'affranchissement du monde, comme Louise Michel l'écrit dans certains de ses textes.
Oui, alors après, l'engagement féministe de Séverine est quand même assez complexe, puisque on est quand même à une époque où une des grandes revendications, c'est le droit de vote. Et au début, Séverine est contre le droit de vote des femmes.
Hein, oui, comme Louise Michel.
Voilà, et parce qu'elle est libertaire et que faut voir ce qu'elle écrit sur les parlementaires quand même.
C'est goûteux, oui. Oui, c'est goûteux, oui.
Elle ne rate pas. Et donc, en fait, elle défend vraiment l'égalité dans le travail, les droits économiques des femmes, mais elle va se ranger à la question du droit de vote assez tardivement, en fait, hein. Plutôt après l'expérience de la Fronde.
Après la Fronde, oui.
Voilà, après la Fronde. Et ça va déboucher en 1914 sur la campagne qui va être menée par...
Laurence, peut peut-être rappeler que la Fronde, c'était un journal féministe ?
Alors, la Fronde, c'est le journal qui a été fondé par Marguerite Durand en 1897, un quotidien entièrement conçu, rédigé et fabriqué par des femmes.
Voilà.
C'est ce qu'il faut dire. Et toutes les grandes plumes de l'époque, les grandes plumes féministes, ont écrit dans ce journal. Et Séverine occupait une place tout à fait importante. Mmh. Et Marguerite Durand est féministe. Elle s'est convertie au féminisme. Et donc, Séverine, elle va mettre du temps. Parce que d'abord, elle est rétive à tout engagement dans un mouvement. Ça, c'est évident. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va petit à petit se ranger pour la défense du droit de vote. Donc, comme je disais, dans cette grande campagne qui a lieu en 1914 pour les élections législatives, puisque c'est le quotidien, le journal qui lance cette campagne, où les femmes, en fait, pourront mettre un bulletin de vote qui sera « Je désire voter ». Et elle organisera le 5 juillet 1914 une grande manifestation à Paris, pour fleurir la statue de Condorcet. Donc, ça va venir petit à petit, ouais. Et même après, en 1919, elle écrira encore un article dans l'Humanité, qu'elle intitulera « Mon féminisme ». C'est dire que Séverine, jusqu'au bout, en fait, va marquer sa différence et sa façon très indépendante, en fait, de se ranger...
Laurence, encore deux minutes, je suis vraiment désolé. Il y a d'autres personnes qui interviennent après. Alors, vous avez créé, je suis désolé, on peut retrouver des développements dans votre postface qui est dans le livre. Et puis surtout, je voudrais qu'on parle un peu de votre association. Là, c'est alors donc elle est créée en 2021. Vous avez déjà un bilan ? Vous avez des projets ?
Alors, le bilan, on a organisé plusieurs conférences. On est entré en contact avec pas mal de personnes pour faire connaître notre association et on organise chaque année, on participe aux journées du matrimoine en septembre, donc à Pierrefonds. Donc ça c'est un moment vraiment important et également donc on a des projets pour actuellement pour l'année prochaine. Donc par exemple. Je vous en cite un, il y a un festival de la langue française parlée qui va être organisé autour de la Cité internationale de la langue française, puisqu'on est pas loin de Villers-Cotterêts. Là, on est même à Villers-Cotterêts, là, alors qu'on vous parle.
Nous enseignons.
On est dans le lycée. Et festival qui sera organisé autour des trois communes, Villers-Cotterêts, Pierrefonds et Compiègne. Et donc, à cette occasion... nous travaillons avec une classe de lycée qui va donc slammer des textes de Séverine. Donc voilà un exemple de projet. Mais on a aussi des projets de recherche et Sophie va vous en parler.
Alors en fait, je travaille déjà depuis quasiment un an sur la question du patrimoine immobilier. Donc j'ai fait un travail en généalogie immobilière sur la maison de Séverine. Et depuis le début, on se dit que nous voudrions réussir à faire se lever la recherche pour Séverine, parce qu'à un moment donné, c'est important. Actuellement, on est en train d'essayer de voir comment essayer de rallier la recherche et l'université pour travailler justement sur Séverine. Nous avons d'autres projets, mais qui sont pas encore complètement...
Alors, comment vous rejoindre ? Parce que là, le temps passe trop.
Alors, avec, d'une part, sur HelloAsso. Voilà, ça, c'est un lien... c'est une plateforme sur Internet à partir de laquelle on peut s'inscrire, adhérer à l'association. Nous avons un compte Twitter, les amis de Séverine, qui permet de suivre un petit peu l'actualité. Nous n'avons pas encore véritablement de site internet, mais c'est pareil, ça fait partie de nos,
Projets. On peut retrouver sur... parce que j'ai eu l'occasion de découvrir ça quand même, là, à partir de... comment ça s'appelle, là? C'est les maisons historiques.
Voilà, absolument. En fait, avec le réseau des maisons d'écrivains des Hauts-de-France, nous sommes répertoriés en tant qu'association d'amis au sein de ce réseau, qui rencontre justement un petit peu de nos travaux et de nos recherches.
D'accord.
Ensuite, nous allons normalement faire des publications à partir des conférences qui ont été faites face à un public, grâce à la Société d'Histoire et d'Archéologie du Valois, donc qui nous donne la possibilité de publier, hein, d'éditer les conférences, les textes des conférences. Donc voilà, il y a aussi la possibilité du coup de lire ce que nous avons fait.
D'accord. Bon, bah écoutez, merci. En tout cas, c'était très rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur Séverine. C'est une femme vraiment passionnante. On renvoie donc déjà à ce livre, parce qu'il faut souligner que tous les autres livres ont tous été épuisés. Donc Séverine l'insurgée, aux éditions de l'Échappée, avec une postface donc de vous deux, de l'association des Amis de Séverine, et sur le site du Monde Libertaire, dans la rubrique des idées et des luttes, on retrouve aussi une adresse électronique ou vous écrire si on veut travailler avec vous. En tout cas, merci.
Les collaborations seront bienvenues.
Voilà. Donc, merci. Et puis, bien écoutez, n'hésitez pas à nous rappeler quand vous avez des projets qui ont abouti. Allez, au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors, nous allons peut-être passer, en attendant notre ami Dominique, nous allons peut-être passer la canaille, puisqu'elle était du côté des pauvres, Séverine. Eh bien, la canaille, peut-être qu'elle en était.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taulis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris, c'est la canaille, eh bien j'en suis.
Allô? Allô Dominique?
Oui.
Voilà, ça y est. Bon, on a été enthousiasmé par Séverine, donc on a un petit peu dépassé. Alors, quatrième temps de l'émission, ben, comme je dis, le retour de Dominique, avec un hommage à un grand poète, Christian Bobin, et puis une pièce de théâtre. Alors, on aime bien la poésie dans cette émission. Alors, Dominique, c'est un hommage, on aura l'occasion de revenir sur les textes de Christian Bobin. Qui est Bobin?
Alors, c'est le poète du Creusot, hein. C'est vraiment il est lié à cette ville, même s'il n'en parle pas tellement dans ses textes. Donc, il est né en 1951, hein, au Creusot, en Saône-et-Loire. C'est un poète philosophe, comme tu le disais. Alors, il est accusé un peu de mièvrerie, mais je vais vous démontrer le contraire. Alors, c'est le fils d'un... Son père était dessinateur et sa mère travaillait à l'usine Schneider du Creusot. Il est le dernier né d'une famille de 3 enfants et il a été... Bon, il a fait pas mal de petits boulots. Il a été bibliothécaire, guide touristique au Creusot, élève infirmier, professeur de philo. Il a vécu dans une grande précarité jusqu'en 1994, date de sa première publication chez Gallimard. Et il a publié 60 recueils regroupés d'ailleurs chez Gallimard dans la collection Quarto et qui s'appelle, ce regroupement s'appelle Les différentes régions du ciel. Alors quelques mots sur donc ses opinions. Il ne garde pas de bons souvenirs de son enfance entre une mère possessive qui lui interdit de sortir. Il parle même d'univers carcéral hein, et d'un ennui profond à l'école. Ce sera un grand solitaire. Alors c'était pas vraiment un poète social. Hein. Il donne des explications lors d'une interview à La Vie en octobre 2022. Il dit « Durant mon enfance, au long des années 50-60, l'épopée industrielle et technique commençait déjà à s'essouffler. J'ai senti le poids des choses en train de s'effondrer sur elle-même. C'est en prenant le contre-pied que j'ai voulu écrire. » Alors, il continue plus loin. « Parce que j'ai baigné dans cette atmosphère d'une cité dite ouvrière, presque pharaonique à l'époque, je voyais les esclaves égyptiens défiler sur leurs vélos, alors c'est très imagé hein, à chaque fois qu'il écrit, pour répondre à l'appel des usines. Ils avaient une fierté que je comprends d'ailleurs parce qu'on leur donnait encore à l'époque une reconnaissance pour ce travail. Et en échange, on leur offrait une protection. Tout cela a disparu très vite. J'ai connu cet univers par sa surface très pesante et par son dogme du travail. Un monde qui nous empêche d'être. » Alors. Il est très méfiant hein, vis-à-vis du progrès technique et il dit à un moment donné, contrairement au progrès technique, les progrès spirituels sont équivalents à un accroissement des difficultés. Plus il y a d'épreuves, plus vous vous rapprochez d'une porte paradisiaque. Donc il se méfie du progrès technique, mais en fait il dit que les progrès spirituels n'avancent pas, hein, contrairement au progrès technique. Alors, il est très sensible aux gens, aux contemplatifs et aux gens humbles. Alors, il dit, dans cette lutte incessante que constitue le monde dit moderne, les contemplatifs sont les guerriers les plus résistants. Ce sont eux, peut-être, qui pourront nous tirer d'affaire. Il faut juste que chacun se remette à faire ce qu'il a à faire, à la façon la plus simple. Les poèmes du boulanger, ce sont ses pains. Donc, c'est un hommage aussi au petit métier. Mmh. Et parce qu'il est très sensible, hein, aux petites choses du quotidien, à la nature. Il rend beaucoup hommage aux femmes et surtout, bon, il a une muse qu'il a vraiment mise à l'écriture, qui s'appelait Ghislaine, mais qui est morte en 1995. Et plus récemment, il vivait avec la poétesse Lydie Darras. Alors, c'est un croyant, mais très critique sur les religions. Il écrivait d'ailleurs dans Le Monde des Religions. Il a écrit un très beau livre sur Saint François d'Assise. Je crois, Francis, que tu voulais
le
en dire quelques mots.
Non, le temps passe, là. Le très bas, je reviendrai dessus, oui. Très beau livre.
Donc, les religions sont lourdes pour lui. Elles reposent sur des textes qui sont des merveilles, mais elles sont d'abord les analphabètes de leurs propres écritures. Hein, donc, il était quand même assez critique. Donc, il passe sa vie à lire et à écrire. Les seuls frais qu'il fera seront l'achat de livres. Donc il dit « Les livres viennent, ne n'oublions pas des arbres, parfois ils s'en souviennent. Certaines phrases de certains livres bruissent comme les feuilles de l'acacia. » Donc beaucoup de références à références à la lecture et à l'écriture. Mmh. Et bon, le rôle, il pense que le poète a un rôle, c'est de rehausser le langage à son point d'incandescence, dit-il. Donc il insiste sur le rôle du poète. Et son dernier livre, c'est Le Muguet Rouge, publié chez Gallimard, qui n'est pas dans le Quarto. Donc c'est encore une critique de la modernité. Hein. Le poète est en colère, il moque les économistes, ces bouilleurs de chiffres. Il fustige la folle vitesse qui régit nos vies et les écrans qui absorbent notre temps de cerveau disponible. Les métaphores, il adore les métaphores, l'œil du cyclope, le Gutenberg du diable, le miroir des aveugles, haros sur les chiens électroniques. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un poète, hein, malgré ses critiques.
Nous reviendrons sur son œuvre et notamment sur le livre là, qui est sorti chez Quarto, dans le courant du mois de janvier. Est-ce que tu peux nous dire en 4 minutes ce que tu penses de la pièce de théâtre dont tu voulais nous parler?
Oui, alors on change de sujet, ça s'appelle « Les filles aux mains jaunes ». Donc je vous recommande vivement d'y aller. Hein. Alors elle se joue jusqu'au 30 décembre au Théâtre Rive-Gauche, rue de la Gaîté. Écrite par le dramaturge Michel Bellier et mise en scène par Johanna Boyer, elle raconte l'histoire de quatre femmes qui travaillent dans une usine d'armement pendant la guerre 14. Ces filles qu'on surnommait les munitionnettes ou les obusettes. Alors le son de cette pièce est d'une grande qualité, alors due à la technique qui est excellente, mais à la qualité des voix des femmes, parce que ce sont des femmes qui font des doublages de voix hein, pour des films étrangers. L'une des quatre femmes est une journaliste libertaire, féministe, une suffragiste, et non pas une suffragette, et pacifiste, dont les idées sont inspirées par la journaliste Marcel Capi, qui était une amie de Séverine, là, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'était une amie de Romain Rolland, d'Henri Barbusse et de Robert Jospin, le père de Lionel. Alors, plusieurs thèmes sont abordés hein, dans cette pièce. Alors, bien sûr, le féminisme, le rôle des femmes dans la guerre 14, qui ont travaillé dur et qui n'ont eu droit à aucun monument aux morts. Elles travaillaient dans ces usines 12 heures par jour, avec 2 jours de congé dans le mois, tout en étant mère de famille. Elles ont fabriqué 2500 obus par jour, soit 35 tonnes par jour. Et elles étaient payées 2 fois moins que les hommes ou que leurs propres fils. On y parle du droit de vote refusé en France, alors qu'il est accordé en Nouvelle-Zélande depuis 1893. Il y a 4 femmes, donc bien sûr la journaliste défend le droit de vote, mais les 3 autres ouvrières ne le défendent pas. Les conditions de travail aussi dans ces usines, notamment les maladies professionnelles, car on y maniait le TNT qui faisait jaunir les mains, d'où le titre de la pièce.
Ah voilà, les mains jaunes, c'est à cause de ça.
Oui, à cause du TNT. Bon, les toilettes étaient au fond d'une cour du sordide, les carreaux j'avais remplacé, elles avaient froid, enfin c'était des conditions. Les hommes aussi hein, ont travaillé dans des conditions difficiles. On y parle du pacifisme défendu par cette journaliste, mais refusé aussi par les 3 autres ouvrières. On y parle de la censure des journaux dès que l'on critique ces usines d'armement et du devoir de solidarité et de la pénurie donc que tout le monde s'aidait dans ces usines. Alors c'est une belle histoire d'émancipation car la journaliste va transmettre le flambeau aux 3 autres ouvrières qui n'étaient pas sensibles à toutes ces causes, voire même hostiles. Leur lutte a porté ses fruits car elles gagneront à la fin de la guerre un salaire égal et pour tous les ouvriers des meilleures conditions de travail et la reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, donc je vous dis d'y aller parce que c'est vraiment une très belle pièce.
Tu nous rappelles où ça se trouve déjà ?
Donc ça, c'est rue de la Gaîté, il vaut mieux réserver.
C'est le théâtre
Théâtre Rive-Gauche.
Théâtre Rive-Gauche, rue de la Gaîté, du côté de Montparnasse.
Oui.
Bah écoute, merci Dominique, et puis on se retrouve dans le courant du mois de janvier pour reparler de Bobin et pour parler d'autres livres. Merci.
D'accord, allez, au revoir.
Au revoir. Eh bien écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci comme d'habitude pour votre attention et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 28 décembre, d'abord je parlerai du nom de Clara que je n'ai pas pu te présenter aujourd'hui, et nous aurons une émission consacrée à une vie, à une ville, un quartier, une cité, celle des Bosquets à Montfermeil, et d'un livre, le livre Bâtiment 5, Courte vie, pleine, d'Aristide Barrault. Et les fans de Marie la retrouveront à cette occasion, puisque c'est elle qui mènera l'entretien. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, et j'espère toujours avec Léo Ferré. Au revoir.
Jatte, avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître, le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette
fête, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'en peut être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Ouais.
Plus triste, la clé de ce